Bonjour, nous sommes le 13 mars 2017. Nous sommes au lycée Bernard Palissy en seconde 6 à Saintes. Aujourd'hui, nous avons au total 5 rubriques avec 14 sujets différents. Pour commencer, il y aura 4 sujets internationaux. Je laisse la parole à Malo et Paul, ici présents, qui vont vous parler au sujet de Donald Trump.
Donald Trump, c'est un homme d'affaires qui a été élu le 20 janvier 2017 et qui fut le 45e président des États-Unis.
L'une des principales craintes entourant l'arrivée du pouvoir de Donald Trump concernait le climat. Le milliardaire avait estimé en 2012 que le changement climatique était un canular ourdi par les Chinois pour affaiblir la compétitivité des industries américaines. Et il a annoncé à plusieurs reprises durant sa campagne qu'il allait retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Depuis, il a nommé Scott Pruitt, qui est un climato-sceptique, à la tête de l'Agence américaine de l'environnement. Ce nouveau patron a pris contre-pied du consensus scientifique mondial en déclarant que les émissions de dioxyde de carbone n'étaient pas un facteur déterminant dans le changement climatique. Si les États-Unis, principaux émetteurs de CO2 de la planète, renonçaient à lutter contre le réchauffement climatique, les conséquences seraient catastrophiques pour l'avenir de la planète.
Peu après s'être déclaré candidat à l'investiture républicaine, Donald Trump avait émis sa première proposition choc permettant d'expulser les 11 millions de sans-papiers qui se trouvent sur le sol américain.
Donald Trump lui-même pourrait d'ailleurs être conscient de la difficulté de mettre en place cette mesure. Il a ainsi mis de l'eau dans son vin depuis son élection, disant vouloir expulser 2 à 3 millions de criminels et non plus 11 millions comme annoncé au départ.
En décembre dernier, alors que Barack Obama venait d'appeler les Américains à rejeter toute hostilité envers l'islam, Donald Trump prenait le contre-pied du président américain en annonçant qu'il compterait interdire l'entrée du territoire américain aux musulmans s'il était élu.
Depuis, Donald Trump a sensiblement modifié sa proposition, affirmant vouloir interdire l'accès au territoire américain aux ressortissants de pays où sévit le terrorisme islamiste. Le vendredi 27 janvier, il a tenu sa promesse en signant un décret interdisant à tous les réfugiés, quelles que soient leurs origines, d'entrer aux États-Unis pendant 120 jours.
Ensuite, Donald Trump a fait la construction d'un immense mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, comme l'un des points forts de son programme. Cette barrière qu'il souhaitait être assez haute pour empêcher les immigrants illégaux mexicains de l'escalader ferait plus de 3000 km de long.
Depuis qu'il a été élu, le milliardaire a toutefois précisé que le mur pourrait être plus modeste que prévu au départ.
Mettant en avant son sens des affaires et ses talents commerciaux, Donald Trump a annoncé son intention de renégocier un ou tous les accords économiques avec les partenaires étrangers, et notamment la Chine, avec lequel il se lancerait dans une véritable guerre commerciale.
Donald Trump a ainsi exigé de la Chine qu'elle ouvre son marché aux produits américains et qu'elle cesse ce qu'il estime être une concurrence déloyale, menaçant de prendre des mesures radicales.
Pour finir, le milliardaire souhaite mettre fin à l'assurance santé universelle mise en place par Barack Obama, trop coûteuse à ses yeux et qui ne bénéficierait pas à tous les Américains.
S'il a confirmé depuis son élection vouloir demander au Congrès de faire annuler l'Obamacare, Donald Trump a toutefois précisé qu'il avait l'intention de le remplacer par un système d'assurance santé qui profite à tout le monde, sans toutefois se montrer plus précis.
Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Donald Trump ?
Je pense que il a pas trop les qualités pour être président des États-Unis. Enfin, c'est quand même une très grande puissance et il s'y connaît pas trop en politique.
Bah, même si je l'apprécie pas, pour moi c'est un génie. Parce qu'il n'est pas du tout dans la politique et il a réussi à être président.
Paul, est-ce que le climat vous inquiète ?
Si les États-Unis se mettent pas en accord avec tous les autres mondes, oui.
Merci d'être venu présenter votre sujet.
Merci à vous.
De rien et merci.
Bonjour Baptiste et Lucas. Vous allez nous parler des relations américano-russes.
Certitude, 1961, retiens bien cette date. On a bâti le mur de Berlin pour ne pas que ça éclate. La RFA est sous tutelle du bloc.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste, votre chroniqueur politique, et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Lucas Drapier.
Bonjour Baptiste.
Eh bien, donc aujourd'hui nous allons aborder la problématique suivante. Cela fait 26 ans que la guerre froide est finie, et pourtant les relations américano-russes sont toujours tendues. Quelles sont les causes de ces tensions qui durent ? Et je laisse la parole à notre invité.
Oui, merci. Nous ne revivons pas la guerre froide. Néanmoins, Washington et Moscou ont du mal à s'entendre. Pour cause des intérêts contradictoires au sujet de la guerre en Syrie.
Oui, en effet. Les États-Unis soutiennent les mouvements rebelles, à l'inverse de la Russie qui soutient le gouvernement syrien.
Autre situation conflictuelle, la crise ukrainienne. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine qui est opposée à la Russie. Quand Obama était au pouvoir, il a expulsé 35 agents de renseignement russes. Pour cause, une cyberattaque visant à favoriser l'élection de Donald Trump en novembre 2016. Vladimir Poutine n'a pas expulsé d'Américains en représailles. Il a avoué avoir hâte d'entamer les négociations avec le nouveau président américain. Justement, les deux hommes se sont entretenus pour la première fois samedi 28 janvier. Ils auraient tous les deux exprimé la volonté de travailler contre le groupe État islamique afin de stabiliser et de développer la coopération américano-russe.
Et de plus, pour démarrer les relations au mieux, la presse indique que Poutine pourrait faire cadeau de l'extradition de Edward Snowden aux États-Unis. En effet, Edward Snowden est un ancien agent de la CIA et de la NSA qui a rendu public des informations classées secret défense, comme le fait que la NSA a mis sur écoute des Américains. Depuis, il se cache en Russie où il n'y a pas l'extradition américaine.
Néanmoins, attention à ne pas trop s'avancer. Les relations entre ces deux pays ne sont pas prêtes de s'améliorer malgré l'investiture de Donald Trump. En effet, la majorité républicaine au Congrès se mobilise contre les agissements de piratage de la part de Moscou qu'elle traite d'inacceptables.
Donc, si on veut conclure, Moscou et Washington sont donc loin d'une paix qui apaiserait le monde. Malgré tout, la proximité des idées entre Donald Trump et Vladimir Poutine peut laisser penser à un rapprochement de ces deux pays, et donc une certaine alliance américano-russe. Cette alliance pourrait être politique ainsi qu'économique, mais risquerait d'isoler l'Europe. Pour conclure, nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle situation mondiale qui pourrait changer beaucoup de choses. C'était tout pour moi et notre invité. Au revoir les auditeurs, à la prochaine fois.
Baptiste et Lucas, est-ce que vous pensez que la guerre froide va connaître un nouvel épisode ?
Quand même, c'est assez avancé. La guerre froide, c'était quand même assez fort, et ça a duré longtemps. Je pense pas qu'on va arriver à des choses aussi extrêmes.
Non, effectivement, ça va... C'est pas... Enfin... Aujourd'hui, ça étonnerait tout le monde qu'une nouvelle guerre froide arrive, que, comme on a dit, avec l'investiture de Donald Trump, même si les choses ne vont pas s'améliorer tout de suite, elles vont pas empirer, normalement.
Baptiste, qu'est-ce que tu penses de la figure de Vladimir Poutine ?
C'est un homme assez sûr de lui. Il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est un homme qui mène bien la Russie, même s'il est un peu contre l'Europe. Et puis le fait qu'il soit un peu en accord avec Donald Trump, ça va faire avancer les choses, c'est peut-être quelque chose de bien.
Et toi, Lucas ?
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Baptiste, c'est une personne qui s'y connaît beaucoup en politique et qui mène très bien la Russie.
Très bien, merci d'être venu. Bonjour Lucas Hugo, votre sujet va donc porter sur la lutte contre la propagande djihadiste sur le net.
Il n'y a pas de vie sans le djihad, affirme cette vidéo.
Le terrorisme est un sujet sensible, Paris novembre 2015 et Nice juillet 2016. On se demande comment lutter contre. Une des solutions est de combattre la propagande djihadiste sur le net. Comment, à l'échelle française, la lutte contre la propagande terroriste sur Internet s'opère-t-elle ?
La loi oblige le fournisseur d'accès à Internet, plus souvent appelé FAI, qui est un organisme offrant une connexion à Internet ou un réseau informatique mondial, à bloquer l'accès aux sites provoquant aux actes du terrorisme ou en faisant l'apologie. L'éditeur d'un site considéré responsable de la diffusion de contenu incitant au terrorisme sera dans l'obligation de les supprimer. Mais malheureusement, les terroristes disposent de matériel et de logiciels très sophistiqués. Très souvent, les djihadistes cryptent leurs données afin de rendre la suppression des sites très compliquée. Les terroristes disposent de personnes très douées en informatique, capables de créer des bots, qui est un petit programme informatique ou robot logiciel qui parcourt Internet pour collecter différents types d'informations, ou même capables de réaliser automatiquement certaines tâches, et dans ce cas-là, ces bots sont créés pour que des sites djihadistes puissent être créés en continu sur Internet avec le même PDF qui permet d'avoir la même page Internet, les mêmes images sur plusieurs sites différents. Et voilà pourquoi exterminer la propagande djihadiste sur Internet devient impossible.
C'est donc pour cela que le gouvernement français a ouvert un site appelé Stop Djihadist, par le gouvernement français dédié à la lutte contre la propagande djihadiste et la radicalisation des jeunes isolés. Les vidéos sont interdites aux moins de 12 ans car elles pourraient les choquer. En deux minutes, la vidéo aborde les thèmes de prédilection de la propagande djihadiste, mais leur oppose à chaque fois la réalité de la violence de ces groupes. Au message, ils te disent « Sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une justice, une juste cause. En réalité, tu découvriras l'enfer sur terre et tu mourras seul, loin de chez toi. » Dans de courtes vidéos, des experts donnent des arguments capables de déconstruire le discours djihadiste. L'anthropologue Dounia Bouzard évoque par exemple la manipulation de la notion de l'humanitaire et l'utilisation dans les vidéos de propagande des codes présents dans les jeux vidéo auxquels les jeunes sont habitués.
Pourquoi penses-tu que des jeunes sont séduits par la propagande ?
Souvent,
parce que c'est des jeunes justement isolés qui on va dire ont plus de vie quoi, ils savent plus quoi faire et donc ils ont recours à la propagande.
Ils se sentent mal dans leur peau je pense et du coup
Bonjour Arthur et Mathéo, vous allez nous présenter les conséquences économiques du Brexit.
Is beginning to sound a bit sarcastic. Because the UK this week voted to leave the European Union.
Le Brexit, une du British exit évoquant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, référence au Grexit évoqué durant l'été de la crise 2015 grecque. Le camp du Leave l'emporte avec 51,9% des voix. Le Brexit a provoqué des conséquences économiques difficiles à évaluer. Pour l'instant, exemple d'après le journal Le Monde, qui date du 1er octobre 2016, l'activité du Royaume-Uni n'a pas lourdement chuté, mais des signes de ralentissement apparaissent. De plus, la livre a perdu de sa valeur parce qu'elle a baissé de 20%. Donc cette chute a provoqué une baisse de pouvoir d'achat des Anglais par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Par ailleurs, le journal CNews Matin, datant du 1er mars 2017, publie les 13 conséquences concrètes du Brexit.
Le retrait de l'Angleterre dans l'Union européenne devrait durer plusieurs années. Le Royaume-Uni devrait perdre le bénéfice des accords commerciaux passés avec l'Union européenne et ses partenaires. Chaque foyer britannique perdrait en moyenne 4 300 livres de revenus par an, soit 5 400 euros. Le produit intérieur brut du Royaume-Uni d'ici 2030 serait inférieur à 6%. Cette sortie de l'Union européenne provoquerait le relèvement des barrières douanières. Le pays serait moins attirant pour les investisseurs, à part si le Royaume-Uni devient un paradis fiscal. Un chômage en hausse, un manque à gagner fiscal, un visa pour aller à Londres et moins de touristes britanniques cet été. En conclusion, le Brexit n'a pour l'instant provoqué de crise économique importante. Il faudra regarder l'évolution au cours des années futures.
Est-ce que vous avez déjà envisagé d'aller en Angleterre pour y travailler plus tard, Arthur ?
Cela dépend si l'Angleterre devient un paradis fiscal ou non.
Et toi, Mathéo ?
Moi, personnellement, pour mon projet professionnel, pas forcément.
D'accord. Merci d'être venu.
Merci.
Très bien Emma, merci d'avoir participé. Maintenant c'est moi, Lucas, qui poursuivra cette intervention. Nous allons parler de politique avec un sujet en commençant avec l'éducation vue par les candidats au présidentiel avec Clément et Louis.
Bonjour, bonjour à tous et à tous. Moi, je m'appelle Louis, je suis accompagné de Clément. Nous allons vous parler aujourd'hui des programmes éducatifs des candidats à la présidence de la République. C'est un sujet beaucoup traité à la télévision et à la radio ces derniers temps. Clément et moi-même allons donc comparer le programme de chaque candidat avec leurs points communs. Bonjour Clément.
Bonjour. Pour commencer, les candidats qui se présentent sont François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Les points communs sont peu nombreux, mais ils méritent d'être soulignés tout de même. Marine Le Pen propose de fermer les établissements scolaires de moins de 200 élèves à la campagne, comme Jean-Luc Mélenchon qui propose de fermer ou regrouper les petits établissements.
Marine Le Pen propose également que les savoirs fondamentaux comme le français et le calcul soient acquis dès le plus jeune âge, comme ce que propose François Fillon avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des calculs dès le primaire.
Nous allons maintenant vous présenter les programmes éducatifs plus en détail.
François Fillon souhaite que l'école transmette des savoirs fondamentaux. Il va proposer d'avancer la scolarité obligatoire à 5 ans au lieu de 6 ans pour une année supplémentaire d'apprentissage à la lecture. Il veut que les élèves consacrent les 3/4 du temps de classe à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, des grands personnages et des grandes dates de France, et de mettre fin à l'interdiction des devoirs à l'école élémentaire. Il est contre l'utilisation des outils numériques et un renforcement au niveau de l'anglais, dernièrement jugé moyen selon une étude. L'apprentissage est également une notion essentielle de son programme, car il propose de mobiliser tout le pays en faveur de l'apprentissage à 15 ans et de redéployer les fonds destinés.
Marine Le Pen propose que les écoles deviennent des établissements publics d'enseignement avec un directeur qui aurait un statut. Les collèges et les lycées perdraient le L de établissements publics locaux d'enseignement. seraient supprimés les projets d'établissement, les conseils pédagogiques et les commissions éducatives, l'administration serait recentralisée et les régions n'auraient plus la responsabilité de la carte des formations. Les programmes seraient élaborés par un collège d'enseignants. Un nouvel enseignement civisme et droit serait introduit, avec pour mission l'intégration à la nation, chacun sachant ce qu'il doit. Un enseignement des sciences informatiques serait créé. Pour ces deux disciplines nouvelles seraient créées deux CAP. Les programmes seraient annuels et un élève qui ne les maîtriserait pas à la fin de l'année redoublerait. La notation chiffrée serait rétablie. L'uniforme à ne pas confondre avec la blouse serait imposé. Les classes préparatoires aux grandes écoles fondées sur l'excellence serviraient de modèle à l'ensemble du système scolaire. Elles fourniraient de plus le vivier des futurs enseignants qui, pour ceux qui ne seraient pas admis dans l'une des deux écoles normales supérieures, entreraient dans une école normale régionale ou loin des pédagogistes. Ils recevraient une formation disciplinaire d'excellence pour préparer le CAP ou l'agrégation avant de se préparer à enseigner pendant un an avec un tuteur. L'insécurité à l'école doit être traitée de la même manière que l'insécurité en général. Tolérance zéro. Les établissements les plus dangereux seront équipés de portiques de détection de métaux, même temporairement. L'alourdissement des peines pour les personnes coupables d'avoir agressé physiquement ou verbalement un enseignant. L'accent sera mis dès la maternelle et plus encore à l'école élémentaire sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux français calcul. Augmentation en conséquence du nombre d'heures consacrées à ces matières qui a sans cesse baissé dans les années 1970. Instauration de cours de français obligatoires pour les parents qui ne maîtrisent pas notre langue nationale. Fin de l'aventure pédagogiste. La méthode syllabique sera obligatoire en CP. L'histoire sera apprise de façon chronologique tout au long de la scolarité. La géographie sera enseignée sur des cartes et l'apprentissage de la géographie française obligatoire. L'histoire de France retrouvera sa place au cœur de l'apprentissage. Maintien obligatoire de la note. Pas de remise en cause de la décentralisation des collèges et des lycées aux départements et aux régions qui date en 1984, mais mise en place des mécanismes de péréquation nécessaires à une vraie égalité entre les élèves sur les territoires nationaux. La décision de fermer les petits collèges à moins de 200 élèves à la campagne sera revue. Les mégastructures ne réussissent pas nécessairement. La proximité a d'immenses vertus. Le ministère de l'Éducation nationale devra faire une place toute particulière aux problématiques rurales dans son organisation interne. Les intérêts ruraux seront mieux représentés dans les cabinets ministériels. La politique du 1 sur 2, non-remplacement d'un enseignant partant à la retraite sur 2, cessera. L'intégralité des départs à la retraite sera remplacée. Il n'y aura cependant pas de création de postes supplémentaires dans un souci de responsabilité budgétaire. Les efforts de réduction d'effectifs seront concentrés sur l'administration centrale du ministère. Enfin, on a trouvé sur leur site www.frontnational.com.
Jean-Luc Mélenchon veut augmenter le nombre d'élèves par classe en primaire, diminuer la scolarisation des 2 ans en maternelle, qui a chuté de 32 à 18% depuis 2002. Il veut aussi déplacer la formation continue des enseignants, notamment pendant les vacances scolaires, recouvrir aux non-titulaires pour les remplacements courts, en supprimant les titulaires remplaçants, supprimer en partie ou totalement les postes d'enseignants, spécialiser centre l'échec scolaire, supprimer 1 000 000 d'emplois d'intervenants extérieurs en langue vivante et d'assistants étrangers à l'école primaire, augmenter la taille des classes au collège fermé ou regrouper des petits établissements. Enfin, il veut nationaliser l'offre éducative et la courbe de formation au lycée.
Emmanuel Macron sur l'école. Le futur candidat se concentre non pas sur le collège qu'il veut garder unique, mais sur le primaire où il prône plus d'autonomie pédagogique et de moyens pour les établissements. Le tout dans le but d'aider notamment les écoles des quartiers en difficulté en y attirant plus de professeurs expérimentés qui bénéficieraient donc d'une liberté pédagogique accrue mais seraient aussi mieux payés. Emmanuel Macron veut aussi réformer la carte scolaire pour faciliter la mixité sociale dans les écoles. Son autre priorité est le lycée, où l'orientation post-bac doit être, selon lui, considérablement musclée. À l'université, il est favorable à la sélection au niveau du master. Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la taille des 1200 classes de CP et de CE1 en zone prioritaire. Ces enseignants recevront une prime annuelle. Ils recevront une prime de 3000 euros net.
Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, veut mettre en place une source publique du soutien scolaire pour donner toutes les chances de réussir l'école avec comme objectif d'inclure dans le temps scolaire des élèves le travail personnel et les devoirs donnés à la maison. Il s'engage par ailleurs sur le recrutement de 40 000 enseignants, dont 20 000 dans le primaire, et la création d'un service public de la petite enfance destiné à la grande enfance, à la garde d'enfants en cas d'horaire décalé. Il compte aussi redessiner une nouvelle carte scolaire pour mettre fin au ghetto scolaire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés en espérant vous avoir éclairci sur le sujet.
Est-ce qu'on parle assez de l'école durant cette campagne ?
Pas trop. Moi, j'entends pas trop, en tout cas, parler à la télé ni à la radio, mais bon.
Oui, c'est assez difficile à en entendre parler.
Si vous deveniez ministre de l'Éducation, quelle réforme feriez-vous en priorité ?
Plus aider les élèves à réussir.
Et recouper les petits établissements dans des gros établissements.
Merci, Clément et Louis.
Merci.
La troisième rubrique portera sur l'éducation, en commençant avec l'orientation après le bac, avec Damien, Johan et Julien.
Moi je vais faire fac de bio à Marseille.
Une école d'infirmière.
En fac sciences pas droit.
Et moi sûrement en fac physique chimie.
Donc nous sommes des élèves du lycée Bernard Palissy, moi c'est Johan, je viens d'avoir mon bac S et maintenant je suis confronté à la suite de mes études. Je ne sais pas du tout quoi faire, j'hésite entre plusieurs choses. Dans un premier temps, j'ai la possibilité d'aller à l'université, cela m'ouvrirait des portes dans des domaines tels que la médecine, le domaine scientifique. Je serai alors en licence pendant 3 ans avant d'aller en spécialisation master pendant 2 ans, puis enfin dans plusieurs domaines comme la gestion, l'économie ou le sport. Dans un second temps, je peux tenter d'aller en classe prépa afin d'obtenir un concours pour entrer dans une école supérieure de commerce, dans une grande école d'ingénieurs, de militaires ou encore de vétérinaires. Je peux aussi aller en filière scientifique. Dans ce cas, j'aurai un choix à faire avec mes matières préférées. MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur. BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la terre. Maintenant, je laisse place à Julien.
Bonjour, moi c'est Julien. J'ai eu mon bac ES et maintenant j'hésite à faire mes études en université pour pouvoir faire une licence de droit qui va jusqu'au bac plus 5 ou une licence MIASHS qui est une licence de mathématiques et d'information appliquée aux sciences humaines et sociales. C'est ce qui m'intéresse le plus parmi les nombreuses licences que nous pouvons faire en université, car il y en a beaucoup d'autres, comme des licences de lettres, des licences de langue ou des licences dans les sciences humaines et sociales. J'hésite aussi à aller en école spécialisée qui dure de 2 à 5 ans, où l'accès est sur concours. Je pourrais alors préparer un diplôme dans la comptabilité, dans la gestion et dans le commerce. Je pourrais également faire un IEP, qui est une institution d'études politiques, mais encore dans la santé et le social, et enfin dans l'art ou l'architecture. Je laisse la parole à Damien.
Pour ma part, j'ai eu le bac L et je ne me suis pas encore décidé sur ce que je vais faire après. Je pense aller à l'université où je ferai une licence de lettres classiques qui s'oriente vers les études du latin et du grec et qui s'intéresse aussi aux littératures et aux civilisations anciennes. C'est un débouché à bac plus 5 dans les secteurs de l'enseignement, de la communication, de la documentation, de l'information, de l'édition, de la culture, etc. J'hésite aussi à aller en école spécialisée d'art et d'architecture. Ces écoles recrutent sur concours ou sur dossier après le bac. Cette orientation va de 3 à 5 ans d'études.
Vous avez encore le temps pour vous orienter. Pourquoi est-ce que vous y prenez maintenant ?
On a le temps encore, c'est vrai, mais vaut mieux s'y prendre à l'avance que se retrouver dépourvu quand il faudra choisir.
Et toi, Johan ?
Moi, je pense qu'il faut s'y prendre maintenant, comme ça, on sera pas en galère à la fin et on sera prêt à enchaîner les études.
Avez-vous réfléchi où vous irez, dans quelle ville ?
Moi, je pense aller à Bordeaux puisque c'est pas trop loin et puis j'ai de la famille là-bas où je pourrais loger.
Moi, je pense aller à Poitiers ou à Bordeaux parce qu'il y a les études qui m'intéressent le plus là-bas.
Moi, j'ai pas encore réfléchi à ça. Déjà, j'essaie de savoir où je veux aller et puis après, on verra par la suite où j'irai.
Est-ce que vous allez travailler pour vous payer des études ou au studio ?
Moi, comme je l'ai dit, je sais pas encore, je travaillerai peut-être pendant les vacances, mais pour l'instant, j'ai de la famille là-bas où je pourrais loger pendant mes études.
Moi, c'est pareil, je sais pas si je travaillerai en plus des cours pendant les vacances, c'est sûr, mais pendant les cours, ce sera peut-être compliqué.
Moi, je pense que je travaillerai pendant les vacances et puis après, on verra. Hein.
Ok, merci.
Merci.
Nous allons maintenant parler du point de vue différencié de la socialisation des filles et des garçons avec Amandine, Soleya et Maëlys.
Léa va naître dans quelques semaines. Et si rien ne change, dans quelques années, Léa aura un salaire inférieur de 25%
à celui des garçons. Bonjour, alors on va parler de ce qu'on demande aux filles pour être acceptées dans la socialisation, parce qu'elles doivent jouer un rôle important au sein de la famille. Puis dès leur enfance, on les dirige vers des jeux avec des bébés, de la dinette, ou la cuisine ainsi que le ménage. À la différence des garçons qu'on dirige vers des jeux plus agités comme des voitures, des toupies, des monstres ou des figurines.
Donc on se pose une question aujourd'hui, donc cette question est « Y a-t-il toujours autant de différences entre les filles et les garçons à notre époque ?»
Bon, moi je pense que oui, il y en a toujours par exemple au niveau de la société, à la maison pour les tâches ménagères.
Citez-nous des exemples.
Le linge par exemple, tout le monde le sait qu'un homme ne sait pas faire marcher une machine à laver.
Moi par exemple, je trouve ça normal, je fais ça quasiment toutes les tâches chez moi. Le soir, mon mari rentre du travail et se repose, il ne m'aide pas et ça ne me pose aucun problème, je trouve ça normal.
Vous trouvez ça normal donc de ne pas vous partager les tâches de nos jours ?
Absolument, je suis là pour ça.
Oui, l'égalité dans tout ça, un homme peut aider à la maison, non ?
J'aime bien, vous n'avez pas le même point de vue, c'est intéressant.
On peut considérer comme hors norme une fille qui désire un camion et un garçon qui souhaite une poupée. Certaines personnes ont du mal car ça ne respecte pas les normes et les valeurs de la socialisation.
De plus, chez les parents, selon le sexe de l'enfant qui va naître, les parents se comportent différemment. Par exemple, sur les portes des toilettes publiques, les femmes ont deux pictogrammes, alors que les hommes n'en ont qu'un. Cela présente un stéréotype, car ça montre qu'il n'y a que la femme qui s'occupe du bébé. Conclusion, c'est une socialisation différenciée.
Ensuite, dans un couple homme-femme, il y a souvent des déséquilibres dans les tâches quotidiennes. Le temps domestique, les tâches ménagères et les soins sont plus exécutés par les femmes. Le bricolage et le jardinage ainsi sont plus exécutés par les hommes. D'après Jean-Claude Kaufmann, le drame conjugal analyse du couple par son linge, Nathan Demille, nous a repris la phrase « Même l'homme le plus doué est d'ailleurs incapable d'apprendre le fonctionnement du lave-linge ».
Et si l'homme continue de s'occuper de quelques chemises à lui, c'est le signe que le couple est très égalitariste. Passons à la femme. Petit à petit, la femme va prendre en charge l'intégralité du linge des deux.
On peut en conclure que le partage égalitaire des tâches dans le couple avance lentement. Cela nous permet de prouver que l'égalité homme-femme existe bien.
Est-ce que vous pensez que les choses changent, Amandine ?
Avant, les femmes faisaient plus de choses que les hommes, mais maintenant les hommes nous aident beaucoup quand même.
Maëlys ?
Ouais, je suis un peu du même avis. Je trouve que maintenant, ça évolue plutôt bien en fonction des hommes, par exemple. Les hommes aident plus à la maison.
Et Soleya ?
Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que les femmes font toujours autant de choses à l'intérieur. Après, les hommes en font à l'extérieur.
Est-ce que cette différence garçon-fille se fait-il sentir dans la classe, Amandine ?
Non, je ne trouve pas.
Non, je trouve pas non plus. Enfin, je trouve que c'est assez homogène dans la classe.
Soleya ?
Moi, je suis assez d'accord avec les filles.
Ok, merci. Commençons sur l'homosexualité avec Jade et Léna qui nous ont fait un dialogue.
Contre, je n'ai rien contre les homosexuels. Hein. On les aime, mais c'est contre nature. Hein.
Bonjour Léna.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du sondage que tu as fait sur l'homosexualité auprès des élèves de ton lycée. Donc qu'est-ce qui leur sort ? Qu'est-ce que tu en conclus ?
Alors oui, j'ai effectué un sondage sur 20 élèves de mon lycée en leur posant des questions sur leur avis ou sur ce qui les choquait dans le domaine de l'homosexualité. Donc il en ressort que 20% sont choqués par l'homosexualité et n'acceptent pas le mariage. Plus de 50% des personnes changeraient de comportement si un de leurs amis leur avouait leur homosexualité. Et 70% des élèves sont pour l'adoption. Concernant la procréation médicalement assistée, qui regroupe toutes les méthodes d'assistance à la procréation, 20% des élèves sont pour. Elle est autorisée en France seulement pour les couples hétérosexuels. Les femmes célibataires et les couples homosexuels n'y ont pas encore accès. C'est pour ça que tous les ans, il y a des couples homosexuels qui souhaitent avoir un enfant en ayant recours à une PMA, qui vont en Belgique ou en Espagne où la loi leur autorise.
Donc on peut en conclure que chez les adolescents, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit malgré les restrictions de la loi française.
Oui, les nouvelles générations sont plutôt ouvertes à ce sujet, mais lorsqu'on compare avec les chiffres d'une enquête de l'IFOP en 2016 sur la société française, on s'aperçoit que les générations un peu plus anciennes ne sont pas forcément du même avis. Seulement 50% des Français sont favorables à l'adoption et 65% acceptent le mariage pour tous.
Donc concrètement, les générations plus anciennes sont moins ouvertes sur ce sujet et sont plus exigeantes sur le fait de voir deux femmes ou deux hommes se marier, contrairement aux jeunes qui, eux, l'acceptent en plus grande majorité.
Tout à fait.
Eh bien, merci pour ton témoignage sur ce sondage qui nous a apporté pas mal d'informations sur la vie des jeunes envers l'homosexualité.
De rien et merci.
Pensez-vous que les mentalités ont changé et qu'elles doivent changer, Elena?
Moi, je pense qu'elles ont beaucoup changé parce que dans les nouvelles générations, on constate quand même une grande ouverture d'esprit et elles peuvent encore évoluer chez les plus anciennes générations parce qu'il y a toujours des sujets tabous par rapport à l'homosexualité.
Et toi, Jade?
Moi aussi, je pense déjà, elles ont évolué comme on peut le voir avec les pourcentages. Ça a évolué et je pense que ça évoluera encore parce que les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur ce sujet par rapport aux anciennes générations qui sont plus renfermé, on va dire.
Pensez-vous que pour les jeunes de notre âge, c'est facile d'annoncer son homosexualité à la famille?
Moi, je pense que c'est en fonction des parents, si on peut dire. Je sais que moi, ma sœur est homosexuelle et que mes parents sont ouverts, donc elle n'a pas eu de mal plus que ça à l'avouer, même si elle a toujours eu l'hésitation de la réaction des parents. Mais en fonction de l'ouverture d'esprit des parents, ça peut être plus ou moins facile à faire. Mais ça doit quand même pas être simple à aborder.
Donc moi, en revanche, j'ai personne de mon entourage qui est homosexuel. Mais je pense que déjà, ça a un rapport avec la relation qu'on a avec ses parents. Si on leur dit beaucoup de choses ou pas, ça peut varier les réactions. Et du coup, voilà.
Ok, merci. On va maintenant parler du sida et les jeunes avec Eléa et Léa.
Ce soir, je vais prendre, pour la trithérapie proprement dite, je vais prendre celui-ci, un de celui-ci.
Bonjour, celui-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la banalisation du sida chez les jeunes. Pour cela, je vais interviewer une jeune fille de 16 ans. Tout d'abord, sais-tu ce qu'est le sida et le VIH ?
Le sida est une maladie sexuellement transmissible et le VIH, c'est comme le sida.
Le VIH est un virus de l'immunodéficience humaine. Lorsque l'on est contaminé par celui-ci, suite à un rapport sexuel non protégé, les cellules du système immunitaire sont progressivement détruites, ce qui va développer ce qu'on appelle couramment le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Selon toi, quel est le nombre de jeunes en France contaminés et à quel âge peut-on l'être?
Je pense qu'un jeune sur 10 a le sida. On peut l'avoir dès le premier rapport sexuel.
Le nombre de jeunes porteurs du virus en France augmente considérablement chaque année. Sur 6600 personnes qui ont découvert leur séropositivité, en 2014, il y a 11% de jeunes entre 15 et 24 ans qui sont contaminés par ce virus. Nous pouvons être contaminés à n'importe quel âge. D'après notre sondage, 6 personnes sur 10 disent qu'il n'y a pas d'âge pour l'avoir. 2 sur 10 pensent que l'on peut l'avoir dès notre premier rapport sexuel. Et 2 pensent que l'on ne peut pas l'avoir à partir d'un certain âge. Sais-tu quels sont les modes de transmission ?
En ayant des rapports.
On peut être contaminé par une relation sexuelle non protégée, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. Elle peut être aussi transmise par le sang, comme par exemple le partage de matériel d'injection, seringue, ou la transmission du sida de la mère à l'enfant. Mais malheureusement, les jeunes de 15 à 25 ans ont généralement une idée fausse du sida. D'après un sondage de l'IFOP, auprès de 1000 jeunes et de notre sondage, les jeunes pensent que l'on peut être contaminé en s'embrassant. Ils sont 20%. 10% d'eux pensent que l'on, en s'asseyant sur les toilettes, on peut être aussi contaminé. Et une personne sur 10 pense que l'on peut l'attraper avec un préservatif. As-tu déjà eu un recours à un dépistage et sais-tu si les jeunes sont-ils souvent amenés à en faire un?
J'en ai jamais fait et je pense que peu de jeunes en font.
Effectivement, la question du dépistage est loin d'être une priorité pour les jeunes. Seuls 45% des jeunes ayant des rapports sexuels ont effectué un test en 2016, contre 55% en 2015. Suite à notre sondage, on a pu remarquer que très peu de personnes ont fait un dépistage. Penses-tu qu'il y a un remède ?
Non.
Malheureusement, non. Mais 3 personnes sur 10 pensent qu'il y en a un, et 7 personnes sur 10 pensent qu'il n'y en a pas. Ce qui prouve encore une fois que les jeunes sont mal informés sur le sida. Donc nous pouvons en conclure que suite aux différents sondages, plus les années passent et plus les jeunes sont de moins en moins informés sur le mode de transmission et ce qu'est le sida. Donc amusez-vous, mais protégez-vous.
Vous dites que l'on peut attraper le sida à n'importe quel âge, mais même un enfant de moins de 10 ans peut l'attraper ?
Bien sûr.
Et Léa ?
Bah oui, si ça vient de sa mère ou même maintenant, et voilà.
Vous pensez que c'est génétique ?
Bah quand la mère est atteinte, quand elle est enceinte de l'enfant, oui.
Et pouvez-vous nous préciser ce qu'est le dépistage ?
Normalement, c'est une prise de sang et donc après, ils font des analyses pour savoir si on est contaminé ou pas.
Et toi, Léa ?
C'est pour savoir si on est contaminé par le sida.
Je vais maintenant laisser ma place à Nina.
Merci Lucas, maintenant c'est à mon tour de parler. Je m'appelle Nina. Nous allons vous parler du harcèlement scolaire avec Fanny et Coralie.
Cette chose qui nous tue, cette chose qui nous tue au quotidien, cette chose que l'on subit tous les jours, cette chose...
Le harcèlement se définit par une violence répétée physique, psychologique ou verbale. La cause du harcèlement peut être liée à la religion, la timidité, un handicap, des difficultés scolaires. Une personne étant harcelée peut aussi harceler. Une personne peut harceler pour ne pas être harcelée et se protéger. Chez une personne étant touchée, le harcèlement peut causer l'automutilation, l'anorexie, la dépression, l'insomnie, la phobie scolaire, un stress constant, des malaises et le suicide.
D'après le Figaro du 29 octobre 2015, en primaire, le harcèlement touche généralement 12%, au collège 10% et au lycée 3,4%. Il existe le cyberharcèlement, c'est la publication de messages ou de photos diffamatoires ou dégradantes sur les réseaux sociaux. D'après l'UNICEF, 12,5% des enfants français, soit 11 232 jeunes de 6 à 18 ans, ont été victimes de cyberharcèlement, 13,4% des filles et 11,1% des garçons. Plus de un adolescent sur 4 a déjà pensé au suicide à cause du cyberharcèlement. L'exemple du film « Marion, 13 ans pour toujours » qui est tiré d'une histoire vraie et qui est d'abord paru en livre. C'est une collégienne de 13 ans qui s'est suicidée car elle ne supportait plus les agressions verbales et physiques de ses camarades. Les élèves de 3e prépa pro du lycée Bernard Palissy ont également tourné un court-métrage sur le harcèlement qui raconte l'histoire d'une fille bourgeoise habillée de façon chic dans une classe d'élèves habillée et parlant comme les gens de la cité. Elle se fait alors harceler par tout le monde.
Mais un jour, le cas contraire se produit. Une fille de la cité se fait harceler par des bourgeois et la fille de sa classe qui se fait harceler vient la défendre. Ces deux exemples nous montrent que le harcèlement peut toucher tout le monde et qu'il est très présent dans le monde des ados.
Merci pour vos recherches. Avez-vous déjà été harcelée ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail ?
Moi, c'est quand j'étais avant au collège et il y a certaines personnes qui ont commencé et qui m'aimaient pas vraiment et du coup la classe s'y a un peu mis et finalement j'ai changé de collège et voilà.
Bien, merci. Maintenant nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la maltraitance des enfants avec Chloé, Flavie et Laura.
Parce qu'il ne faut pas confondre élevé à la dure et élevé à la brute, maman. Shaina, c'est Jedna d'Alobosso.
Après mon 10e anniversaire, alors que j'avais reçu de nombreux coups et que je n'avais pas eu le droit de manger, mon père avait décidé que je n'irais pas me coucher sans une dernière punition. Il m'a emmené dans la cuisine et m'a fait asseoir à la table. Il a ensuite pris une assiette et y a mélangé de l'omelette froide, un yaourt, du pain, de l'eau et de la salade. Il me dit « Tu n'iras pas te coucher tant que tu n'auras pas tout mangé, y compris la sauce. » J'ai alors osé me tourner vers lui, entre bravade et désespoir. Je lui ai demandé en larmes ce que j'avais fait pour mériter cela. Même Hyde, notre chien berger, notre berger allemand, était mieux traité que moi. Alors mon père m'a répondu froidement, me regardant dans les yeux, « Tu es pire qu'un chien. »
La dénonciation de la maltraitance infantile se fait par le biais des milieux scolaires, des hôpitaux et parfois du voisinage. Rares sont les parents qui se retirent eux-mêmes la garde de leur enfant pour les protéger. Suite à cela, une enquête est réalisée par l'assistante sociale, une référente ASE et des membres de la protection maternelle infantile. Céline Raphaël, enfant de la bourgeoisie, a passé 14 ans de sa vie comme une bête à jouer. Son père, qu'elle décrivait comme son bourreau, voulait qu'elle devienne pianiste prodige. 45 heures de piano par semaine. La torture pour cette jeune fillette qui n'aimait pas son instrument. Chaque mauvaise note était suivie de coups de ceinture. Elle en était arrivée à la privation de repas jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'anorexie.
Céline a subi des violences et le comportement de son père lui a laissé des séquelles. Comme la plupart des enfants maltraités, sachant que 19 000 enfants sont victimes de maltraitance, 78 000 se trouvent dans une situation à risque, 46 % de cas de maltraitance sont imputables au père et que 600 à 700 décès sont dus à un mauvais traitement des parents. Céline a été victime de maltraitance physique, c'est-à-dire qu'elle a subi des violences volontaires sur son corps, de maltraitance psychologique comme les humiliations, les insultes, les punitions et la négligence lourde car ses parents ne l'ont pas protégée, son environnement était néfaste. Céline a été signalée aux services sociaux puis a été placée en famille d'accueil. Elle ajoute même que son placement lui a sauvé la vie. En 2008, elle devient docteur en sciences avant de devenir interne en médecine et de publier son livre témoignage s'intitulant « La démesure » en 2013. Il existe aujourd'hui en France plus de 98 000 cas connus d'enfants en danger.
Chloé, si un enfant est maltraité, est-ce qu'il y a des recours à la protection ?
Oui, bien sûr, il y a un numéro à disposition qui est le 119 Allô Enfance en danger. Tout le monde peut témoigner, c'est anonyme, donc personne ne le sait. Et suite à cela, il y a une enquête qui est mise à disposition par l'assistance sociale. Et après, il y a des mesures qui sont prises suivant le type de profil d'enfant en danger.
Et Chloé, pourquoi vous avez choisi ce sujet ?
On a choisi ce sujet car pour nous, on trouve qu'on ne parle pas assez de la maltraitance d'enfants. C'est vraiment un cas lourd et on voulait faire part à tout le monde que ça touche beaucoup d'enfants dans le monde.
D'accord, merci à vous. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est l'impact des téléphones portables et des jeunes avec Deandra, Lolita et Eva.
Pour Cassie et Shaima, qui vont pianoter avec leurs amis.
Au collège, on a le droit de l'avoir sur nous.
La dépendance au téléphone portable se répand de plus en plus. Elle entraîne des difficultés de concentration et d'apprentissage, en particulier chez les personnes de moins de 25 ans.
En effet, le cerveau termine sa constitution qu'à 25 ans. Si on donne l'habitude aux adolescents d'utiliser les téléphones portables, le cerveau verra ça comme un besoin constant, rendant l'adolescent accro à son téléphone, comme si c'était une chose indispensable à sa survie.
Nous avons mis en place un sondage pour les élèves du lycée d'après les réponses obtenues. 52% des élèves utilisent leur téléphone plus de 7 heures dans une journée.
La plupart des jeunes sont accros à leur téléphone portable car ils sont accros aux réseaux sociaux, qui les relient au monde entier, leur permettant de communiquer avec n'importe qui à n'importe quel moment.
Le téléphone est désormais un instrument de décommunication, car on passe plus de temps sur notre engin qu'avec nos amis en temps réel. Cela nous rapproche des personnes loin de nous, mais nous éloigne des personnes les plus proches.
D'après notre sondage, 90% utilisent leur téléphone pour les réseaux sociaux, les SMS et les jeux vidéo seulement.
Nombreuses sont les personnes qui souffrent réellement quand elles sont séparées de leur téléphone portable. On appelle cela la nomophobie.
Nous avons demandé aux élèves s'ils seraient capables de se séparer de leur téléphone portable pendant une semaine. Suite aux réponses obtenues, 55% ont répondu que ça leur serait possible.
La communication devient superficielle car en premier lieu, elle permet d'établir un contact avec autrui, mais le but initial du téléphone est donc modifié, car maintenant, sortir son téléphone portable pour tuer l'ennui, pour se distraire ou appeler quelqu'un est devenu une habitude.
Pour la dernière question de notre sondage, 75% ont répondu que leur téléphone rendait la vie plus facile et plus amusante.
Merci à vous. Lolita, en moyenne, combien de temps tu utilises ton téléphone par jour ?
En moyenne, j'utilise 4 heures par jour.
Est-ce que la technologie vous a éloigné de votre famille ?
Moi oui, parce que je passe plus de temps du coup sur mon téléphone et il y a moins de paroles avec la famille du coup.
Personnellement non, parce que
J'essaye de gérer le temps que je passe sur mon téléphone et le temps que je passe avec ma famille.
Bah moi oui, parce que je suis renfermée dans ma chambre finalement, et puis mon frère et ma sœur aussi, donc on est tous chacun dans nos chambres et plus en famille quoi.
Est-ce que vous serez capable de vous priver de votre téléphone portable pendant un jour?
Bah oui.
Oui.
Oui. Un jour ok, et une semaine?
Moi non, pas une semaine par contre. Moi oui, c'est possible.
Moi oui, mais il faut que je sois occupée d'autre chose, sinon je pourrais pas.
Et pourquoi toi non, Lolita?
Parce que j'ai rien d'autre à faire.
D'accord. Merci. J'ai demandé à Lucas et à Emma de revenir sur le plateau. Merci à vous d'être là. Et maintenant, nous allons parler des accidents mortels de la route.
En 2012, le nombre des tués sur les routes a baissé de 8% par rapport à l'année précédente. Mais 3645
D'après la sécurité routière, depuis 1960, au moins 350 000 personnes sont mortes de suite d'un accident de la route en France. En 2016, il y a une augmentation de 0,2%. En tout, 3 469 personnes sont décédées. Dans de nombreux accidents survenus en 2016, 28% des accidents sont liés à un taux d'alcoolémie supérieur à la moyenne autorisée. L'alcool est une des principales causes d'accidents. Si conduire sous l'influence de l'alcool est un délit moins répandu que l'excès de vitesse, son influence est cependant considérable sur les accidents. Les accidents dus à l'alcool au volant représentent un tiers des accidents mortels. Et l'abus d'alcool est responsable directement de 40% des décès immédiats. D'après dossier familial, à 0,5 g par litre dans le sang, le risque d'accident est multiplié par 2 et par 10 lorsqu'on dépasse 0,8 g par litre dans le sang. Il faut rappeler que s'il y a plus de 0,2 g d'alcool par litre dans le sang, il y a de grosses sanctions. Moins 6 points sur le permis, une amende forfaitaire de 135 €, une immobilisation du véhicule et la mort dans le pire des cas.
La vitesse est aussi une des principales causes d'accidents. Certaines personnes ne respectent pas la limitation de vitesse, ou l'accident se produit souvent lorsqu'un véhicule double un autre, ou lors d'un virage et selon la météo. Dans de nombreux accidents survenus, 26% sont liés à la vitesse par non-respect du code de la route et des limitations. D'après le site de la Dépêche, un accident lié à la vitesse est multicause, mais la principale cause est le manque de vigilance et la fatigue, car la monotonie de la conduite à des vitesses basses ou élevées provoque une sécrétion d'adrénaline. Pour certains, la vitesse de pointe est facile à contrôler car les conducteurs sont soi-disant plus habiles, et d'autres s'amusent sur la route parce qu'ils pensent que 85% des gendarmes et policiers ne respectent pas le code de la route. Bien, beaucoup disent que cela peut avoir avec la vitesse légale, souvent définie en fonction d'intérêts locaux. Cette obsession sécuritaire finit par être absurde, et les pouvoirs publics en donnent eux-mêmes la preuve en constatant que les radars n'empêchent pas l'augmentation des accidents.
De plus en plus d'automobilistes conduisent sous l'emprise de stupéfiants et leurs nombres sont probablement sous-estimés. Sans atteindre les ravages créés par l'alcool, la drogue a été impliquée dans 21% des accidents mortels en 2013. Selon l'Observation nationale interministérielle de la sécurité routière, la dernière étude sur la consommation des stupéfiants au volant relève que 9 cas sur 10, le produit stupéfiant consommé est du cannabis. Pour finir, d'après Claude Gau, grand médecin anatomopathologiste, il dit que conduire après avoir fumé du cannabis double le risque d'être responsable d'un accident mortel et après avoir pris de la cocaïne, le risque d'accident est multiplié par 8.
Nina, est-ce que quelqu'un dans ton entourage a été victime d'un accident de la route?
Oui, mon papa est décédé il y a 9 ans à cause d'un accident de la route. Il avait pris des stupéfiants dont du cannabis et du coup il est allé dans un virage et il s'est retrouvé sur le bas-côté et du coup il s'est pris un arbre.
Et toi Lucas?
Oui, une connaissance de mon père est mort dans un accident de voiture. Et des amis à des parents de ma mère s'est endormi sur la route et s'est pris la barrière d'une autoroute.
D'accord, merci. La dernière rubrique est portée sur le sport avec un sujet présenté par Louise, Lauriane et Mathilde qui est la boxe féminine.
Allez, on s'applique, allez, ça bosse.
Nous allons vous présenter l'évolution de la boxe féminine selon les stéréotypes à l'aide d'une interview. Nous avions interviewé Delphine Guénon, 23 ans et championne de France.
Allez, allez, bobo, travaille en anglais.
Allez. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport?
Depuis 4 ans, ou depuis février 2013.
Pourquoi as-tu choisi ce sport?
Je viens du judo initialement, du coup je cherche un sport avec un peu plus de contact, de nouveaux défis à accomplir, tout simplement.
Qu'est-ce qui te plaît dans la boxe ?
Qu'est-ce qui me plaît dans la boxe ? Du coup ça va être les échanges, après la mentalité. On croit que c'est un sport de brute, finalement pas du tout, il y a vraiment un bel esprit dans ce sport. Après moi je suis une bagarreuse, du coup j'aime bien tout ce qui est combat, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Après franchement c'est un sport complet, aussi bien physiquement que mentalement, psychologiquement, ça te met dans de bonnes conditions.
As-tu déjà reçu des remarques à propos du fait que tu sois une fille ?
J'en ai eu quelques-unes. Au début, on ne croit pas forcément quand je dis que je fais de la boxe. On se dit que bah non, j'ai pas le physique pour ou quoi, on ne s'attend pas à ça. Et puis du coup, ça fait rigoler au début. Et puis après, bah, ils prennent au sérieux. Hein, de toute façon, les résultats parleront après, par le futur. On m'a déjà dit, par exemple, qu'il n'y a pas de niveau dans les combats de filles, que c'est plus facile chez les filles, qu'il y a moins de monde, du coup, c'est moins compliqué, etc. Maintenant, il faut savoir aussi que les filles qui font de la boxe, bah, c'est par choix, qu'elles s'entraînent aussi dur que les mecs, voire plus dur justement pour casser ce gros préjugé. Des femmes qui font pas de sport de combat et qui sont nulles. Moi aujourd'hui je m'entraîne avec des garçons et j'ai aucun problème là-dessus et il y a de l'opposition et voilà.
Quelle réaction as-tu face à ces remarques ?
La plupart du temps ça me fait sourire, enfin faut pas se braquer dès qu'on a des remarques, les gens qui parlent c'est souvent ceux qui agissent le moins, du coup au début ça me fait rigoler quand on dit que j'ai pas le profil à faire de la boxe, je rigole et puis après quand j'ai des vidéos on les regarde tous ensemble et puis bon, finalement peut-être qu'ils se rendent compte que je suis à ma place dans ce sport.
Quel conseil pourrais-tu donner aux filles qui se lancent dans un métier plutôt ou dans un sport plutôt masculin ?
Qu'il faut pas se mettre de barrière, il n'y a pas je pense de métier plus masculin que d'autres. Après, voilà, quand on se lance, faut être sûr aussi de suivre le rythme, etc. Et puis, mais il ne faut pas se mettre de barrière. On est des filles, mais il n'y a pas de barrière à se mettre. Donc, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Et normalement, ça suit derrière. La volonté, l'envie, la motivation, ça fait accomplir de grandes choses. Et quand on a ça, déjà, c'est un gros point fort.
Quand tu as commencé la boxe, est-ce que la boxe féminine était bien médiatisée ?
Alors, il y a 4 ans, donc ça, c'est plutôt récent. Je dirais qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas médiatisée de fou. Voilà, on entend parler de quelques combats. Après, féminin, il n'y en a pas beaucoup et c'est pas encore super médiatisé. Donc voilà, à part quelques grands noms comme Amissa Mexen, etc. Ou là, bien sûr, mais... Encore à la télé, ça reste un frein, je pense, pour les médias.
Bon, ben merci, nous avons fini et bon courage à toi et bonne soirée.
Merci à vous, bon courage, à bientôt.
Les femmes reçoivent moins de reconnaissance que les hommes, elles ont donc commencé la boxe plus tardivement. La boxe reste très méprisée. En 2013, la présence des femmes à la boxe a augmenté de 7%.
En ces 20 dernières années, la boxe féminine s'est démocratisée et ouvre maintenant ses portes aux femmes et intègre même des codes féminins.
Il reste tout de même une large différence. Par exemple, on compte 36 boxeuses pour 250 boxeurs au JO.
Bah, très bien, merci de nous avoir présenté votre sujet. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Eh bien, on a choisi ce sujet parce que ça me concerne moi en tout cas, parce que je suis une boxeuse et que je pense que c'était important de montrer aux autres ce qui se passe dans l'environnement de la boxe féminin.
Et toi, tu as déjà reçu des remarques par rapport au fait que tu fasses de la boxe ?
Oui, j'en ai reçu, comme quoi que j'allais être pas forte ou même y rigoler du fait que je fasse de la boxe alors que je suis une fille, justement.
Et toi, tu leur réponds quoi ?
Bah, ça me fait sourire parce que bah c'est pas forcément le cas, quoi.
Miss Lauriane, vous pensez quoi des remarques faites aux filles ?
Je trouve ça inutile parce que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a moins de force ou même le mental et... Je sais pas.
Mais moi je trouve ça aussi débile parce qu'on juge au physique et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire de la boxe. Enfin, c'est pas...
D'accord, bah merci d'avoir été là.
De rien.
Les sujets étaient très constructifs, j'ai appris beaucoup de choses et ils m'ont bien plu.
Ils étaient très diversifiés et très travaillés.
C'était dans l'ensemble intéressant et bien trouvé.
Je pense que cette émission radio, c'était beaucoup de travail, mais ça valait la peine.
Ça a servi à nous apprendre bien des choses et de ce qui se passe autour du monde.
C'était la classe de seconde 6, merci de nous avoir écoutés.
On remercie également M. Lemel, notre professeur d'éducation morale et civique, de nous avoir organisé ce projet.
Merci, au revoir.